Si les discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie se poursuivent à Bougival, le Collège économique et sociétal, lui, s'est achevé vendredi. Nous en avons parlé ce matin avec Christopher Gigès. Autopsie d'un fiasco judiciaire, c'est le titre du deuxième livre d'Olivier Pérez, dont le parcours judiciaire n'est toujours pas terminé. Après la mort d'Éric Martinez, nous l'avons rencontré. L'auto-école Green Valley, victime d'exactions ce week-end, une de leurs voitures a été incendiée près du stade Noumadélé. 20 élèves sont impactés dans leur apprentissage. Il n'y aura pas de feu d'artifice pour le 14 juillet cette année en Nouvelle-Calédonie. Faute d'assurance, le plus gros fournisseur du territoire, Charles Germain, ne pourra pas proposer de prestations. Le sport avec la suite des mini-jeux du Pacifique et des nouvelles médailles pour la délégation calédonienne grâce au triathlon. Au classement, la Nouvelle-Calédonie est 7e avec 26 médailles. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Un accord économique collé à un accord institutionnel sur un vrai plan de développement à long terme de la Nouvelle-Calédonie. C'est selon Christopher Gigès ce qui ressort du Collège économique et sociétal qui a été réuni jeudi et vendredi au ministère des Outre-mer, Elisabeth Noir.
Christopher Gigès, membre du gouvernement, vient de rentrer de Paris où il a participé à ce Collège économique et sociétal, mais aussi auparavant à l'ouverture du sommet consacré à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Il était notre invité du matin à 7h30 et nous l'avons d'abord interrogé sur le discours d'ouverture du sommet prononcé par le président de la République à l'Élysée, un discours auquel il a assisté alors qu'il y a eu beaucoup d'interprétations sur ce qu'a dit Emmanuel Macron.
Le président de la République, il a été particulièrement clair sur un certain nombre de sujets. C'est qu'il y a eu 3 référendums. Ces 3 référendums doivent être respectés avec des aspirations de chacun à demander plus de souveraineté. Mais les 3 référendums ont été organisés, ont été bien organisés, ont été reconnus par les différentes instances internationales. Et le choix des Calédoniens était de rester au sein de la République.
Christopher Gilles relève que les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale étaient présents, ainsi que le Premier ministre. Et il revient sur les propos du président de la République, alors que certains affirment qu'il a choisi l'État associé.
Oui, il y a eu un article dans Le Monde de Mme Guibert qui ment régulièrement sur la Nouvelle-Calédonie, et j'ose ce terme parce qu'elle prend un malin plaisir. C'est une militante indépendantiste aujourd'hui qui fait les articles du Monde. Le président de la République a dit qu'il souhaitait que tous les sujets puissent être mis sur la table, le sujet de l'État associé puisse être mis également sur la table, mais ça n'a jamais été un choix du président de la République. Il a dit qu'il y en a qui défendent autour de la table l'État associé. Et Le Monde a titré « Le président de la République défend l'État associé ». Donc je crois que Mme Guibert défend cette thèse et a peut-être pris ses rêves pour des réalités.
Christopher Gigès estime qu'il est très bien que rien ne filtre dans les discussions de Bougival. C'est selon lui le meilleur moyen que les négociations réussissent. Concernant le Collège économique et sociétal, il parle d'un front commun des Calédoniens face à l'État et il affirme que des choses ont été obtenues.
On a obtenu ce premier point, qui est un pacte économique et social qui soit rattaché à l'accord institutionnel, que ce ne soit pas qu'un accord sur les institutions, sur le lien à la France, mais également des choses sur le développement économique, sur les finances publiques, sur le nickel, sur comment on inscrit véritablement un développement économique pour la Nouvelle-Calédonie, mais également des mesures de court terme, sur notamment par Amélie de Montchalin, qui est membre en charge du budget, sur le fait d'avoir une extension de la garantie émeute à la Nouvelle-Calédonie par la métropole, une question sur l'immatriculation des entreprises calédoniennes en métropole, un déblocage du fonds de solidarité de l'État sur un certain nombre de sujets qui est débloqué, et tout ça en lien avec la nouvelle mission reconstruction qui a été nommée.
Pour Christopher Gigès, la nomination de Claire Durieux à la tête de la mission reconstruction est une excellente nouvelle. Il précise qu'elle va passer la moitié de son temps en Nouvelle-Calédonie et qu'elle recrute une équipe dans laquelle il pourra y avoir des Calédoniens. Une interview à retrouver en audio et en vidéo sur notre site internet.
Et vous le disiez, Elisabeth, les négociations sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie se poursuivent à Bougival et toujours dans la plus grande discrétion. Elles ont débuté jeudi et elles se déroulent depuis sous différents formats, avec notamment la présence de Patrice Faure, l'ancien haut-commissaire devenu directeur de cabinet du président de la République. Les négociations se font désormais sur la base de la recherche d'un accord définitif, sans période transitoire, et sur la base du résultat des 3 référendums dont le président de la République a acté la validation. Des discussions à huis clos qui pourraient jouer les prolongations et durer au-delà de ce lundi soir, alors qu'il avait été envisagé un temps qu'elle se termine avant le départ du président de la République pour la Grande-Bretagne, où il doit effectuer une visite d'État à partir de demain.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, approuvez-vous la discrétion totale qui entoure les négociations entre groupes politiques qui se déroulent actuellement à Bougival? Si vous l'approuvez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Le casse-tête d'Air Calin pour reprogrammer ses vols devrait bientôt toucher à sa fin. La pièce de rechange de l'appareil tombée en panne vendredi dernier a bien été livrée aujourd'hui, Charlotte Coulson.
Le vol SB500 Nouméa-Bangkok-Paris, prévu dans la nuit de vendredi à samedi dernier, avait été annulé, impactant de ce fait des centaines de voyageurs. La pièce nécessaire à la réparation de l'appareil était attendue dans la journée. Elle est bien arrivée d'Europe et les réparations sont maintenant terminées. L'avion a repris du service à 16h aujourd'hui. Un vol de remplacement SB700 Nouméa-Singapour est prévu ce soir pour un départ à 18h45 de la Tontouta. L'arrivée devrait se faire à Singapour dans la nuit, peu après 1h. Le vol de retour SB701 devrait partir de Singapour demain à 2h35 du matin pour une arrivée à Nouméa à 14h30. Ces changements de vol ont également des conséquences sur la rotation entre Nouméa et Sydney qui devait être opérée en A330 demain. Les vols SB140 et SB141 sont reprogrammés en A320 et en 2 rotations au lieu d'une. Le premier départ de Nouméa se fera demain à 8h35. Le second vol partira à 17h30. Les clients concernés ont été informés de ces changements. Et je rappelle enfin qu'en raison de la mauvaise météo de ces derniers jours, la rotation Nouméa-Port Vila-Nouméa du 4 juillet a été annulée. Une rotation spéciale est prévue demain. Le départ de Tontouta à destination de Port Vila est à 15h et puis le départ de Port Vila à destination de Tontouta est à 17h30.
RRB, il est 17h52.
En bref, le parquet informe le haut commissaire de la condamnation de Philippe Gomez et Philippe Michel pour détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois fictifs au sein de la communauté wallisienne et futunienne. C'est la procédure habituelle après ce type de délibéré, alors que la peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire devient effective à partir de sa communication au parti. Le haut commissaire Jacques Billan doit maintenant prononcer d'office la démission des 2 élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et de la province Sud. Le docteur Olivier Pérez n'en a pas fini avec la justice. Il raconte son parcours judiciaire dans le deuxième livre qu'il vient d'écrire et nous l'avons rencontré, Jean-François Baudin.
Olivier Pérez avait écrit son premier livre, Le diable existe, avant même son premier procès en 2022 pour raconter sa version des faits. Le tribunal l'avait finalement condamné à 20 ans de prison pour le meurtre d'Éric Martinez. L'affaire avait, on s'en souvient, défrayé la chronique alors que le drame s'était joué sur le trou numéro 16 du golfe de Tina. Autopsie d'un fiasco judiciaire, c'est donc le titre du deuxième livre que vient de publier Olivier Pérez, Autopsie d'un fiasco judiciaire, car il estime que la justice s'est trompée sur son cas.
Il y a eu une première condamnation en 2022, c'est un premier procès que j'estime avoir été totalement bâclé, avec une condamnation pour assassinat, donc préméditation et guet-apens. 20 ans de prison. Immédiatement, j'ai fait appel, et un an après, donc, on a eu l'appel, qui a permis de balayer cette affaire de préméditation et de guet-apens. Donc reste un meurtre, dont les mobiles apparemment ne sont pas très clairs, mais j'ai encore pris 15 ans de prison. Donc ces procédures, oui, ça commence à durer. J'ai refait un an de prison, dont je suis sorti l'année dernière. Je suis d'ailleurs resté un an entre la vie et la mort, hein, je le raconte dans mon livre, et j'ai été libéré un peu par la force des choses. Et quelques semaines après ma libération, j'ai obtenu la cassation. Donc j'avais maintenu la cassation, parce que même libre, je ne voulais pas rester sur une condamnation.
La cassation a soulevé un certain nombre de points obscurs et abouti à la tenue d'un nouveau procès, le troisième, qui devrait avoir lieu à Lyon et non à Nouméa, à une date qui n'a pas encore été fixée. Les semaines qui ont suivi la mort d'Éric Martinez ont révélé peu à peu une affaire très complexe entre deux couples engagés dans une relation toxique, destructrice, faite de manipulation, d'adultère ou d'intimidation. Dans son livre, Olivier Pérez revient longuement sur cette relation, cite des témoignages avec un seul but, récuser la thèse du crime passionnel au profit de celle de la légitime défense.
Mes enfants sont menacés de mort, je suis menacé de mort. Quand je vais à la rencontre de Martinez pour lui dire « Tu ne touches pas mes enfants », c'est lui qui me charge avec son poignard. Je tire une première fois, j'explose son couteau. Enfin, les faits sont clairs et nets, toutes les expertises le disent. Et un des experts psychiatres a tout simplement dit à la cour en appel, vous avez deux thèses qui s'opposent. Le crime passionnel et la légitime défense pour menace des enfants et de la famille. Donc quelqu'un ment. Le coupable, c'est celui qui ment. Voilà ce qu'a dit le psychiatre. Donc il a dit au juge, allez chercher celui qui ment. Moi, je peux vous dire une chose, Pérez ne ment pas.
Pour le docteur Pérez, et c'est la thèse qu'il continue de mettre en avant dans son nouveau livre, les véritables responsables à l'origine du drame sont à chercher du côté de la famille Martinez.
J'ai eu des expertises, quatre expertises, qui ont toutes dit la même chose. Ce n'est pas un crime passionnel. Alors pourquoi ces menaces sur les enfants que j'ai subies de la part de ce couple Martinez, menaces de mort sur les enfants, tout est dans le dossier, tous les témoignages sont dans le dossier, les victimes précédentes des Martinez également ont témoigné dans le dossier, elles aussi ont reçu des menaces de mort sur elles et leur famille. Donc toute cette histoire de menaces, c'est la base de tout ça. Les experts psychiatres l'ont parfaitement démontré, et maintenant je crois qu'il faut savoir à qui profite le crime. Il y a une instruction ouverte contre Laurence Martinez, il va falloir aussi qu'elle avance. Donc moi, je vais tout faire maintenant pour accélérer la justice.
Je ne me bats pas contre la justice, mais pour la justice, martèle le docteur Pérez. Il continue de se battre pour que cette justice reconnaisse qu'il a tué Éric Martinez alors qu'il était en état de légitime défense après avoir craint pour la vie de ses enfants. Un combat auquel il s'accroche plus que tout, car pour le reste...
Je suis en état de mort apparente, j'ai tout perdu. Ma femme, mes enfants, que je ne vois plus. Ma maison, mon métier. J'ai tout perdu. Donc maintenant, oui, je me battrai jusqu'au bout pour que la vérité sorte. Mais je me bats pour la justice. Je ne me bats pas contre la justice, je me bats pour la justice maintenant. Il faut que la justice fasse son travail.
Le troisième procès qui doit se tenir à Lyon, dont on ne connaît pas la date, reste pour l'instant le seul horizon du docteur Pérez.
Il est 17h58, première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire. A tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
En association avec le SIVM Sud, le conseil municipal de Boulou-Paris vous invite à un week-end de fête nationale exceptionnel.
Dimanche 13 juillet de 11h à 14h sur la place de la mairie, venez déguster les plats de nos régions au Festival de la gastronomie, voter pour le meilleur plat et gagner un repas gastronomique.
Et de 16h à 21h30 à la caserne des pompiers de Boulou-Paris, une soirée familiale et conviviale avec le bal des pompiers suivi d'un lâcher de lanterne et d'un ciné plein air.
Bienvenue à Boulou-Paris, bienvenue dans l'Ouest.
Gédimat, 51 rue Auer à Ducos, c'est le partenaire des pros et des particuliers. Peinture, lasure, revêtement de sol et mur, salle de bain, produits techniques, étanchéité, électroportatif et quincaillerie. Gédimat, 25 98 84 ou sur Facebook, Gédimat Nouméa.
Info soir, Léana Colombo.
Une voiture d'auto-école incendiée ce week-end. Il s'agit d'un véhicule de Green Valley retrouvé entièrement calciné sur la rue de Bélep, près du stade Nouma Dele. C'était dimanche matin, Charlotte Coulson.
Et si pour l'instant l'origine de l'incendie est encore inconnue, les conséquences financières, elles, sont bien réelles. Le coût d'une voiture d'apprentissage est d'environ 3 millions de francs pour la société qui doit les commander hors territoire et donc attendre entre 3 et 4 mois pour les recevoir. Aujourd'hui, le gérant de Green Valley, Bruno Clouseau, a déposé plainte dans l'espoir d'obtenir indemnisation des assureurs. En attendant, c'est toute l'organisation de l'auto-école qui est chamboulée.
La majeure partie des permis, c'est bien sûr que la boîte manuelle. Et rien que pour ces trois prochains jours, c'est plus d'une vingtaine d'élèves qui sont impactés par le manque de conduite, quoi, en fait. On a dû annuler pas les permis parce que ce serait hors de question. On a dû travailler sur le réaménagement des plannings. Par exemple, quand une personne à 2 heures lui a enlevé 1 heure au profit de quelqu'un d'autre, étaler un petit peu plus les formations sans trop impacter leur formation. Ça a un impact forcément sur l'un des moniteurs. Donc on va essayer de lui faire faire plus de boîtes automatiques parce que je suis seul à faire de la moto et de la voiturette. Ils n'ont pas encore le titre pro de roue. Du coup, il va falloir qu'on réaménage nos plannings. Peut-être faire un petit peu de mi-temps, peut-être trois quarts temps, on va voir comment on va se débrouiller, mais le but c'est de garder tout le monde quand même. Mais ça va être compliqué parce que comme on le dit encore aujourd'hui, on a eu un mois de mai pénible, un mois de juin pas terrible, un mois de juillet qui débute avec une voiture incendiée. On espère pas fermer à la fin de l'année quoi du coup.
L'auto-école reste donc ouverte malgré tout. Elle dispose encore d'une voiture en boîte manuelle, d'une automatique, de 3 motos et d'une voiturette pour assurer ses cours de conduite.
Grégory Joron, le secrétaire général du syndicat Unité Police, a passé une semaine sur le territoire. Il a rencontré les adhérents de son syndicat qui en compte 37 000 au niveau national, mais aussi les cadres des polices nationales et municipales. Il en retient que les policiers sont encore marqués par les violences de 2024.
Ils sont fatigués, honnêtement. Alors, c'est pas la rhétorique habituelle syndicale, c'est une vraie réalité. Ils ont beaucoup donné. Il y a eu même un peu de débriefing collectif. Je pense que maintenant, il faut être un peu chirurgical, entre guillemets, et essayer de voir vraiment les policiers qui développent une forme de mal-être par rapport à ce qui s'est passé et essayer d'être à l'écoute. Ils demandent évidemment des moyens, c'est une évidence. C'est-à-dire tout, on a envie de travailler en sécurité, on a envie de bien travailler. L'intérêt aussi de notre déplacement, et on aura quasiment bouclé, encore une fois, ce tour des territoires ultramarins, en tout cas pour notre organisation, c'est de trouver les points transversaux qui peuvent nous permettre de reconstruire un vrai cahier revendicatif ultramarin qui soit partagé, puisque la question des matériels, honnêtement, je pense que c'est la chose qui réunit chaque territoire. L'idée, c'est de se nourrir justement de nos échanges, de nos discussions, et après, pour nous, c'est de transformer ça en matière syndicale et évidemment de le proposer à Paris et de demander aussi un rendez-vous au ministre Manuel Valls pour lui faire état de notre cahier revendicatif.
Grégory Joron a visité l'ensemble des Outre-mer durant son mandat et il va militer pour un renforcement permanent du nombre de policiers dans ces territoires éloignés de la métropole.
On sait que les crises s'enchaînent, les raisons sont variables, multiples, soit météorologiques, on l'a vu avec le cyclone Chido, soit du narcotrafic, on le voit en zone Caraïbe, parce qu'on a une implantation réelle des cartels sud-américains dans les rues de Fort-de-France ou de Pointe-à-Pitre. On le voit ici parce qu'il y a c'est un terreau culturel, historique, où on a quand même des vrais enjeux et des vraies confrontations. Donc tout ça doit être pris en compte pour se dire, est-ce qu'on a su une surcote en effectif parce que on voit bien la difficulté logistique d'envoyer des renforts dès lors qu'il y a une crise. Et ça veut dire que le temps de latence entre la décision, l'envoi de renforts, la pérennisation des renforts, tout ça, en fait, c'est les policiers locaux qui le supportent sur leurs épaules. Et je pense que chaque minute a ressemblé à une heure et chaque jour a ressemblé à une semaine. Donc à un moment donné, moi, j'attends des politiques qu'ils aient une vraie vision là-dessus. Nous, on a notre avis. Je pense qu'il faut assumer une surcote en Outre-mer pour gérer les crises lorsqu'elles arrivent. Ce n'est pas un coût, à mon sens, mais c'est un investissement.
Après une assemblée générale samedi, Grégory Joron, le secrétaire général du syndicat Unité Police, s'est envolé pour Tahiti, où il doit aussi séjourner une semaine. J'ajoute que demain, ce sera la journée de la police nationale. Elle rend hommage à la mémoire des policiers morts en mission et aux blessés. Une cérémonie est prévue à l'école de police de Normandie. Pas de feu d'artifice cette année pour fêter le 14 juillet. Si le secteur est en déclin depuis 2020, les émeutes de mai 2024 ont mis un coup d'arrêt au secteur. Malgré des soucis budgétaires, les communes de Nouméa et du Mont d'Or ont sollicité les services de Charles Germain, gérant de Pyro NC. Il importe les feux d'artifice sur le territoire et organise les spectacles. Mais faute de financement, mais aussi d'assurance, il lui a été impossible de répondre à la demande cette année.
Malheureusement, nous concernant, en fait, on n'a pas la possibilité, en fait, de fournir des prestations. Donc, l'année dernière, on était bloqué. Cette année, on est aussi bloqué de manière administrative. C'est-à-dire qu'on nous a perdu notre assurance responsabilité civile suite aux émeutes, qui n'a pas pu être renouvelée et on n'a pas pu retrouver d'assureur pour ça. Donc, malheureusement, on ne peut pas exercer en toute légalité. Il y a la commune de Nouméa et la commune du Mont d'Or qui nous ont sollicité. Donc, ces deux communes-là ont voulu faire le choix elles ont alloué un budget qui, malheureusement, sur lequel nous n'avons pas pu répondre favorablement.
Charles Germain exprime sa tristesse de voir cette tradition calédonienne laissée à l'abandon.
C'est des occasions de festivités, de vie, effectivement, qui disparaissent par rapport, en fait, à tout pays moderne de ce nom, en fait, sur lequel on va retrouver des événements de ce type-là, pour des grands événements sportifs, pour des événements nationaux, voilà, les fêtes nationales, le Nouvel An, Noël, ce genre de choses. Voilà, c'est un peu de joie, un peu de bonheur qui disparaissent pour ça.
Mais que faire du stock restant ? Charles Germain nous explique qu'il va devoir s'en débarrasser par la destruction ou la vente.
Effectivement, nous avons encore un peu de stock. Le matériel va très certainement disparaître parce qu'on va être obligé de s'en débarrasser, de le vendre, donc très certainement à l'étranger. Donc il y a une possibilité, c'est la destruction, pour s'en débarrasser parce que le stock nous coûte de l'argent en fait pour la conservation et la maintenance liée à notre dépôt d'artifice. Soit la destruction ou soit la vente à l'export. Donc on ne peut pas se permettre en fait de maintenir des activités à perte. Donc bien entendu qu'on ne s'interdit pas à la possibilité de revenir, mais il faudra qu'effectivement que les perspectives soient suffisamment solides parce que derrière nous, forcément, nous avons des engagements. clients, il y a des investissements. Tous ces métiers liés à l'événementiel et à l'artistique, c'est souvent la réalité financière qui vient rattraper en fait la réalité du terrain, quoi, en fait, qui vient le rappeler à l'ordre. Et en tout cas, voilà, il faut que ce soit fait de manière raisonnable et rationnelle, quoi.
S'il semble y avoir encore de l'espoir pour redresser le secteur quand la crise sera gérée, personne ne semble encore déterminé à reprendre l'activité. Notez ces deux rendez-vous maintenant sur notre antenne, les Nuits de l'Avant-Scène. C'est le nouvel événement artistique mis en place par le chorégraphe Stanka Barlouette. Du 25 au 27 juillet prochain, il proposera un gala de danse avec les 22 talents de son école qu'il appelle l'Avant-Scène. Stanka Barlouette sera demain matin notre invité à 7h30. Il nous parlera de son spectacle, de son école et des difficultés traversées par le monde de la culture. Et on va s'intéresser à la saison des balais. Demain midi, dans notre magazine citoyen, la province Sud a organisé une formation à destination des opérateurs du Lagon afin de proposer des excursions respectueuses des baleines, mais aussi de l'environnement. Pour en parler, nous recevrons Tiffen Reed, chef du service à la 3DT, Patrice Plichon, responsable des gardes nature du Grand Sud, chargé du respect des règles d'observation et formateur du programme Observer sans danger. Nous recevrons aussi Claire Garrigue, scientifique de l'IRD et spécialiste des cétacés. Deux opérateurs de Tour Baleine répondront aussi à nos questions, Gilles Watelot et Cyril Kotika, un magazine spécial Observation des baleines à retrouver demain midi sur Radio Rythme Bleu. L'actualité dans la région maintenant avec cet accident heureusement assez rare dans un zoo privé de la région de Brisbane. L'une des employées a été attaquée par une lionne qui lui a arraché un bras. Le récit de Jean-Pierre Zajac.
L'accident s'est produit au zoo de Darling Downs, lequel est situé au sud de Toowoomba, soit à environ 80 km à l'ouest de la capitale du Queensland, Brisbane. Alors qu'elle assistait au nettoyage de l'enclos des grands félins avant l'ouverture du zoo, une employée quinquagénaire a eu le bras arraché par une lionne. Après avoir reçu les premiers soins sur place, elle a été transportée par hélicoptère sur un hôpital de Brisbane en vue d'y être opérée. Dans un communiqué, la direction du zoo a indiqué que ladite employée était parfaitement au courant des protocoles de sécurité concernant les animaux potentiellement dangereux et qu'elle avait plus de 20 ans d'expérience dans le métier. La lionne en question n'avait pas récemment mis bas et ne sera pas euthanasiée, a conclu le communiqué. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 18h, passé de 8 minutes, seconde pause avant de passer au sport et de voir les mini-jeux de Palao.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Ce jeudi 10 juillet, le Nord vient à votre rencontre sur la place des Cocotiers. Artisanat local, gastronomie, marché agricole et de la mer, produits horticoles, groupes de danse et de musique, les communes du Nord vous réservent de beaux partages et des saveurs authentiques. Le jeudi du centre-ville, l'authenticité du Nord, c'est ce jeudi 10 juillet de 8h à 19h, place des Cocotiers. Info sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Des piqûres regroupées ou alignées sur votre peau qui vous démangent, ce sont des punaises de lit. Pensez Formula 4D, les punaises maîtrisées par une équipe appliquée. Info sur formula4d.com.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal, les mini-jeux de Palao avec Léana Colombo.
À Palao.
Suivez les mini-jeux du Pacifique avec Toyota Location. Les mini-jeux du Pacifique, c'est aussi avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Et oui, les mini-jeux à Palao et les épreuves ont repris ce lundi pour les cagous. Il y a eu de nouvelles belles performances avec les triathlètes qui ont fait leur entrée en piste et ils ont répondu présents en remportant pas moins de 3 médailles, Jean-François Baudin.
La première était en argent d'abord chez les féminines pour Mélanie Allier qui termine deuxième de cette épreuve au format court. 700 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied.
Vraiment une très chouette surprise, ouais.
C'est le jeu.
Course très sympa.
Elle me poussait.
Un vélo où on a roulé en groupe, parce qu'en drafting, c'était un peu compliqué de faire sa place et de décrocher les autres. Et puis en course à pied, un peu plus en forme pour pouvoir prendre un petit peu d'avance. Donc vraiment une chouette surprise. C'est toujours compliqué d'y croire avant. Tant qu'on n'y est pas, on ne peut pas savoir comment ça se passe. Donc là, c'est vraiment une chouette surprise. Les entraînements ont payé.
Et les Calédoniennes ont failli décrocher une deuxième médaille. Clémence Besson-Léo a terminé quatrième pour son premier marathon international.
Ah, c'était trop bien. Malgré la chaleur, là. Ah, j'ai jamais été toute seule presque à part la course à pied. Ah, du coup, c'était le vélo, là, finesse. Heureusement qu'on était plusieurs. Hein.
Et un peu plus tard, ce sont les messieurs qui sont entrés en piste pour le triathlon. Ils ont fait encore mieux avec de l'argent et du bronze. Mathieu Zalamacha a terminé à la deuxième place.
Conditions difficiles parce que l'eau elle est quasiment à 30 degrés, donc un peu plus chaud qu'en ce moment en Nouvelle-Calédonie. Et après, c'était aussi surtout difficile stratégiquement parce qu'il y avait un Tahitien qui était loin devant, là, Jean-Marc, qui roulait costaud. Nous, on était obligés de faire l'effort pour revenir. Sauf qu'on avait le deuxième Tahitien dans ma roue, en l'occurrence, qui restait bien abrité pendant les 20 km. Bah, ça a payé pour eux parce qu'ils démarrent la course à pied beaucoup plus frais que nous. Et bon, c'est mérité, hein. Stratégiquement ils ont été meilleurs, j'ai pas réussi à décrocher le deuxième Tahitien, et Jean-Marc craque, je pense avec la chaleur aussi, c'était très dur. Avant tout, je retiens le plaisir de concourir ici, d'avoir la chance d'être ici et de porter nos couleurs le plus fièrement possible.
Et derrière l'expérimenté Manieu Zalamacha, c'est le jeune Timothée Hérout qui a brillé. Il s'est emparé de la médaille de bronze.
C'était un peu dur déjà dès la natation parce que je ne m'attendais pas à être deuxième. Après le vélo, du coup, pour essayer de rattraper l'autre, j'ai essayé au premier tour mais je me suis un peu cramé. Du coup, après j'ai attendu Mathieu. Je me suis mis dans les roues et bon, le vélo, c'est pas trop mon fort encore, mais bon, j'ai essayé de tenir. Après, pour la course à pied, c'était un peu dur, j'en avais un peu dans les jambes. Mais ça s'est bien passé. Bon, une première médaille de bronze au mini-jeu, c'est déjà très bien.
Et ces triathlètes seront encore en piste demain avec le relais mixte. Ils concluront mercredi par les épreuves de l'aquathlon. Pour le reste des épreuves, à suivre pour cette fin de journée de l'athlétisme avec Nicolas Cazareroux qui était engagé sur les séries du 200 mètres. En athlétisme handisport, Jasmine Pétigou était engagée sur le saut en longueur. Jérémy Ngodrella sera lui en finale du 400 mètres ce soir, tout comme Natalia Prado sur le 5000 mètres au National Stadium des Palaos. Rappelons que Natalia Prado avait décroché l'argent sur le 10000 mètres. Côté sport collectif, on suit les matchs de classement pour le volet indoor messieurs. Les Cagous visent au mieux la 5e place avec tout d'abord une rencontre face aux îles Marianne du Nord, qui a débuté il y a 17 heures.
Pour le moment, au classement des médailles, la Calédonie est 7e avec 26 médailles, dont 5 en or, 6 en argent et 15 en bronze. Le classement est toujours dominé largement par la délégation de Tahiti venue en nombre dans la perspective d'accueillir les prochains grands Jeux du Pacifique. On rappelle que ces mini-Jeux du Pacifique s'achèveront mercredi soir.
Les mini-jeux du Pacifique vous ont été proposés par Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs par jour. Seulement 3900 francs par jour. Toyota Location à Nouméa, Koné et Lifou. Un seul numéro, 24 28 28.
Page spéciale mini-jeux du Pacifique, résultats, réactions. Suivez chaque jour les cagous sur RRB avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
18h14 et on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les couleurs du ciel, pardon, c'est avec vous Pierre.
C'est avec moi. Cette nuit, le ciel devrait rester très nuageux à couvert, en raison d'un épais manteau de nuages d'altitude qui continuera de s'étendre. De faibles ondées continueront d'arroser l'Est et les îles Loyauté, tandis que le reste du territoire devrait rester au sec. Le vent d'Est devrait faiblir, oscillant entre 10 et 15 nœuds, voire localement entre 5 et 10 nœuds, ou devenant variable et faible sur la côte ouest. Les températures nocturnes connaîtront une légère hausse atteignant entre 19 et 22 degrés en général et autour de 16 degrés dans les terres. Demain matin, la journée débutera sous un ciel encore bien chargé, mais des éclaircies devraient progressivement gagner la côte ouest sous un léger voile de nuages élevé. Ailleurs, les nuages resteront dominants avec quelques petites averses possibles. Le vent restera faible sur la côte ouest, tandis qu'il soufflera d'est ailleurs autour de 10 nœuds, atteignant ponctuellement 10 à 15 nœuds vers la pointe nord.
Et merci beaucoup Pierre pour